Louis Bérard, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous dépanner. Vous avez mis du monde à l'extérieur de votre bureau pour nous. on est un petit peu à l'avance. On avait du mal à joindre Nathalie Chartrand. Donc, on débute cette deuxième partie avec vous, Louis Bérard. Vous êtes neuropsychologue, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et là, pour nous parler d'un sujet que vous allez couvrir demain dans le cadre d'une conférence, vieillir avec un cerveau en santé, les bienfaits de l'activité physique et de la stimulation cognitive. Et j'ai l'impression, Louis, et vous qui travaillez avec des personnes plus âgées, vous saurez me le dire, c'est comme un cercle. La personne vieillit, donc pense qu'elle est moins mobile, plus fragilisée, donc elle bouge moins. Et en fait, ça crée un cercle qui est plus ou moins bon pour la santé de cette personne.
Oui, c'est évident que les appréhensions qu'on a en vieillissant sont fortes. Les gens pensent que, bon, parce que j'ai tel âge, je peux plus faire telle activité physique ou telle activité stimulante, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'âge, tout ça. Hein. C'est une question de capacité physique, c'est une question de capacité cognitive, une capacité d'énergie générale. Mais on voit des exemples là, vraiment là, quasi hallucinants là, quand on voit des athlètes faire des marathons à 100 ans. Ça existe, là. Il y en a dans la presse publique, vous allez en trouver. Au même titre qu'il y a des jeunes de 30 ans qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des maladies. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est pas l'âge qui devrait être le facteur qui nous préoccupe. Souvent, en recherche, nous, on attribue ça au vieillissement secondaire. Les aspects, les maladies, les risques qui s'associent au vieillissement, oui, ont un impact. Mais l'âge, le vieillissement primaire, le vieillissement chronologique, ne devrait pas être le facteur qui nous limite.
Et, bon, l'activité physique, ça a bien sûr plusieurs bienfaits. Ce qui est important de souligner, on va en parler aujourd'hui, c'est l'impact sur notre santé cognitive et la façon dont ça préserve notre santé, oui, mais notre cerveau, surtout, de différentes maladies. Quel est l'impact? Comment ça fonctionne, là, tous ces effets-là?
Ça, on n'est pas capable d'expliquer en détail encore qu'est-ce qui se passe, ce que je peux vous dire, c'est que depuis une ou deux décennies, là, c'est très, très fort dans la littérature scientifique. On a découvert, en fait, que l'activité physique pratiquée de façon régulière, plusieurs fois par semaine, va avoir tendance à s'associer à une diminution du risque de troubles cognitifs, que ce soit pathologique ou non. Hein. Quand on parle de troubles cognitifs, on parle de perte de vitesse, de vitesse mentale, de troubles d'attention, de difficultés à faire plusieurs choses en même temps, et éventuellement même de troubles de mémoire. Donc, il y a une catégorie de ces troubles-là qui va être normale en vieillissant, puis jusqu'à un certain point, ça ne perturbe pas notre quotidien, on s'adapte assez bien, ça ne dérange pas notre environnement, et ça peut devenir plus problématique éventuellement quand ça nous empêche de faire nos activités de la vie quotidienne, ça nuit à nos relations, à notre travail, etc. Là, on va parler d'un vieillissement cognitif pathologique, hein, puisqu'il s'en va vers la démence. Mmh. Et ce que les recherches ont montré, c'est que l'activité physique pratiquée de façon régulière va réduire les risques de ces deux phénomènes-là, c'est-à-dire que le vieillissement même normal va être ralenti, va être repoussé, et le vieillissement pathologique, la démence, va être beaucoup moins important, c'est-à-dire que les diminutions de risques vont jusqu'à 30 à 35 % dans certaines études liées à l'activité physique. Donc, c'est énorme. C'est probablement la plus belle nouvelle que vous pouvez communiquer dans les 10 dernières années en ce qui a trait à la recherche sur la démence. Il n'y a aucun essai clinique qui peut prétendre à côté ça. Et en plus, donc on a suivi des personnes qui faisaient de l'activité physique, on montre qu'il y a une réduction de démence, mais en plus, on a montré que les personnes âgées qui étaient sédentaires, mais qui se mettent à pratiquer de l'activité physique, vont montrer des améliorations cognitives. Donc, même en 3 mois seulement, on voit des améliorations fulgurantes sur le plan de la vitesse de traitement de l'information, de l'attention, de la capacité de contrôler ses ressources mentales. Et ça, c'est vrai, même chez les gens qui avaient montré des déficits.
Ah,
donc, pas juste chez les gens normaux qui sont sédentaires, mais aussi chez les gens qui commençaient à trouver que, oups, j'en perds des petits bouts, là. Donc, 3 mois seulement, 3 fois par semaine, on suit les guidelines, on suit les recommandations, pour parler français, on suit les recommandations liées à l'activité physique que vous allez trouver dans Kino Québec, dans tous les organismes d'activité physique, que ce soit le Collège américain de sciences de médecine du sport, etc. Tous ces organismes-là, Santé Canada, l'Association mondiale de la santé, tous ces organismes-là ont des recommandations liées à l'activité physique. Et si on les suit, de façon régulière, maintenue, on diminue nos risques de troubles cognitifs.
Donc, une façon de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est important de le ressouligner. Bon, 3 fois par semaine, on comprend bien activité physique. Quel type d'activité physique est-ce que tout peut convenir?
C'est une autre question intéressante, le style d'activité physique, le type qu'on doit faire, parce qu'on a longtemps pensé qu'il fallait absolument que l'exercice soit uniquement de style cardiovasculaire, améliorer la santé cardio-respiratoire, comme par exemple marcher avec un pas soutenu, courir, faire du vélo, etc. Alors, on se rend compte que les meilleurs effets, les plus grands effets sont observés quand les programmes sont combinés, donc à, par exemple, l'entraînement de type aérobie, cardio-respiratoire, à un entraînement en force musculaire, par exemple, ou encore à un entraînement de contrôle moteur, donc d'agilité, du sport qui va demander du contrôle au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Jouer à des sports de raquettes, par exemple, pour pouvoir avoir un effet bénéfique. De la même façon, il y a des études récentes qui montrent aussi que le yoga pourrait avoir un impact direct sur la fonction cognitive chez les personnes âgées. Donc, ce sont des sports complexes. Je peux pas, moi, j'ai pas l'expertise pour vous dire qu'est-ce que ça fait exactement sur le corps. Le yoga, c'est très complexe. Il y a différentes approches. C'est certain que ça peut améliorer probablement la force chez certaines personnes ou la flexibilité chez d'autres personnes, la relaxation également. Donc, l'ensemble de ces phénomènes-là va avoir un impact, c'est certain, sur la fonction cognitive. Et les mécanismes sous-jacents, on les connaît pas encore bien.
Oui. Il y a la danse aussi, également, qui est de mémoriser des exercices de coordination. Les bras bougent d'une autre façon que les jambes. Ça peut être un très bon exercice également.
La danse, de plus en plus, est utilisée dans la science pour montrer les effets de l'activité physique de façon régulière, de façon générale sur le cerveau. Encore là, quel type de danse, je pourrais pas vous dire,
mais
il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça a un effet, une valeur ajoutée à l'exercice. Fort probablement parce que, oui, vous l'avez dit, il y a un aspect cognitif qui est sollicité, puis il y a un aspect de contrôle moteur également. C'est difficile de faire de la danse. Ceux qui ont essayé savent que c'est pas toujours facile.
Oui.
Il y a un aspect social aussi qui est intéressant.
Mm-hmm.
Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, dans les méthodes qu'on utilise souvent pour prévenir les troubles cognitifs, on va dire aux gens, ben oui, l'exercice physique, c'est important, la stimulation cognitive, c'est important, mais les interactions sociales aussi. Donc, il y a un troisième facteur très important qui vient avec la danse dans bien des cas. Il y a de la musique. Hein? L'effet de la musique sur le cerveau, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu et étudié depuis longtemps. On a des grands experts à Montréal dans ce domaine-là. Donc, l'effet de la musique a souvent été associé à des caractéristiques uniques sur le cerveau. Hein? Il y a un effet unique par rapport à d'autres types de stimulation et tout ça est intégré dans la danse. Donc, c'est quelque chose d'assez prometteur. C'est assez nouveau en neurosciences. Donc, encore là, je ne peux pas vous dire exactement quels sont les mécanismes d'action derrière tout ça, mais on sait qu'il y a un effet positif en tout cas.
Donc, des facteurs qui sont importants dans la stimulation, la préservation de la santé du cerveau, activité physique, on en a parlé, interaction sociale, la nutrition également, on le sait. Je veux revenir, et vous l'avez abordé, Louis Béard, sur la stimulation cognitive. C'est quoi ça au fond?
Bon, quand on parle de stimulation cognitive, on parle de toutes les formes de stimulation de votre cerveau, si on veut, directement. Par exemple, on va penser aux jeux stimulant la mémoire, l'attention, l'attention divisée, la vitesse d'exécution de certaines tâches. Il y a énormément de ce type de jeux-là qui sont commercialisés dans le monde. Les brain games, qu'on appelle hein, en anglais. À ce jour, il n'y a pas de ces jeux-là là, qui ont un effet particulier ou unique. Il n'y a pas de prescription exacte, mais ce qu'on sait, c'est que les gens qui participent à des activités stimulantes sur une base régulière vont aussi montrer des diminutions de risque de troubles cognitifs avec le temps. Et on sait aussi que l'utilisation de jeux stimulants va aussi aider à remettre en place des fonctions cognitives qui ont été perturbées par toutes sortes d'événements. Vous pouvez penser à quelqu'un qui a eu, par exemple, une maladie cardiaque ou un événement, une chirurgie, ou que, par exemple, vous, si vous passez quelques nuits blanches, vous avez trouvé que votre cerveau est un peu plus lent, les jeux de stimulation cognitive ont beaucoup été utilisés dans cette perspective-là pour réactiver, si on veut, certaines fonctions cognitives.
On les trouve où, ces jeux-là? Ils sont accessibles de quelle façon?
Ben, il y a un peu. Moi, je recommande pas nécessairement un jeu en particulier. Je pense que toutes les activités qui nous intéressent et qu'on va avoir tendance à pratiquer de façon soutenue sont efficaces. On n'a pas besoin de jeux vidéo, hein. Ça peut être des jeux de, par exemple, jouer aux échecs, jouer aux cartes entre amis.
Ouais.
Ça demande de la mémorisation, ça demande du contrôle cognitif, ça demande de lire des interactions sociales aussi. C'est de la stimulation cognitive. La lecture. On oublie souvent que la lecture en est un extrêmement important. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que la complexité du type de lecture des gens vont avoir aussi une certaine valeur prédictive du maintien des fonctions cognitives. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Oui, c'est très à la mode d'avoir des jeux stimulants sur son iPad ou sur son téléphone. Et vous allez en trouver disponibles en vente libre. Vous allez en trouver de toutes les sortes. Moi, je pense pas qu'à ce jour-là... Je peux me tromper, là, mais je pense pas qu'à ce jour, il y a un jeu qui a montré une supériorité par rapport aux autres.
Oui.
L'important, c'est activités diverses. Trouver des stratégies. Par exemple, si on sent que certains matériels sont plus difficiles à retenir que d'autres, les fameux NIP ou les numéros pour les cartes de crédit, etc., ben, on peut trouver des stratégies pour améliorer ça. Et les jeux vont souvent utiliser cette approche-là. Ils vont nous montrer à développer des stratégies pour améliorer notre mémoire, pour prendre plus le temps de se concentrer, pour se donner du temps quand vient le temps d'apprendre du nouveau matériel. Et c'est là-dessus que les jeux vont être efficaces parce qu'ils utilisent ces techniques-là.
Louis Bérard, on en saura davantage lors de cette conférence offerte demain 24 novembre à 14h du côté du Centre Avantage de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, une conférence d'une heure, je pense, c'est ça, hein, une heure.
Oui,
donc, quand même plus long que ce 10 minutes, ça risque d'être justement très stimulant, cette discussion. Est-ce qu'il reste de la place, Louis Bérard?
Je ne suis pas au courant, c'est une bonne question. J'ai pas eu le temps de vérifier, j'imagine. Il y a toujours un peu de place. Hein, puis,
c'est vaste comme endroit.
C'est un amphithéâtre qui est assez vaste. Je pense qu'il devrait rester de la place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on termine toujours cette conférence-là en essayant de faire un survol de ces différentes approches-là dans une perspective de gestion de nos ressources mentales, un peu comme on gère notre portefeuille en vieillissant. Il faut gérer sa réserve cérébrale. Donc, j'utilise un peu cette analogie-là en disant ben, faut diversifier ses placements cérébraux pour les maximiser avec le temps, par l'exercice, par la stimulation, par la nutrition. C'est une réserve précieuse qu'on a, le cerveau, en vieillissant, puis on a tendance à prendre pour acquis qu'il décline, mais c'est pas toujours vrai. Il peut être aussi amélioré puis maintenu très longtemps.
Et ce, on l'a bien compris au cours de cette discussion, à tout âge, il n'est jamais trop tard pour bien faire. IUGM.QC.ca, Louis Bérard, vous êtes neuropsychologue, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et plein d'autres choses. C'est toujours un plaisir de vous parler. On a l'impression d'être à la fine pointe de la recherche quand on discute avec vous.
Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
Au revoir.
Au plaisir.